Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, nous disons merci. Ainsi, nous allons demander à tous ceux qui ont été présents durant les séminaires, ils peuvent manifester leurs mains, ceux qui ont participé pendant toutes les séances du séminaire. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous voyons la majorité ont été là. Et ceux qui ont manqué une séance, ils peuvent se manifester. Ah, gloire au Seigneur. Nous allons faire un petit partage. Moi, j'ai eu un passage qui m'a béni. C'est d'Ésaïe 40, versets 28 à 31. Ça dit ceci. Ne laissais-tu pas donc, et n'as-tu pas appris que l'Éternel est le Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même des robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Ça a été vraiment un passage qui m'a béni, qui me réconforte toujours pendant les moments que nous sommes en train de traverser. Chacun a sa façon en train de traverser les moments où il voit la situation critique. Nous perdons des fois espoir que nous n'allons pas quitter cette situation de guerre. En tout cas, nous prions que Dieu puisse nous renouveler notre force. Ainsi, nous allons inviter notre prédicateur du jour. Bienvenue, nous vous invitons.
Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes encore dans la joie ce soir pour ces quelques minutes que Dieu nous donne pour partager sa parole dans le cadre du séminaire que nous avons commencé depuis le dimanche dernier. Et nous voulons remercier encore une fois de plus le révérend pasteur Festo qui nous a fait confiance avec tout le comité de pasteurs et aussi avec vous, la présence de chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Ce soir, Dieu notre Père, nous sommes encore là dans ta présence. C'est avec un cœur de gratitude que nous voulons, une fois de plus, être exposés à ta parole. Je prie que ton esprit nous guide et que ton esprit illumine notre cœur, afin que nous soyons instruits selon la direction que tu veux que nous puissions suivre. Parle au cœur de chacun et soutiens-nous en ces temps difficiles que nous sommes en train de traverser et que ta grâce nous soutienne. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Est-ce qu'on peut saluer le frère ou la sœur, souhaiter le bienvenu dans la présence de Dieu et souhaiter lui une très bonne parole de la part de Dieu. Gloire au Seigneur, souhaiter le frère ou la sœur une bonne parole et que Dieu nous fasse du bien tous. Alors, ce soir, nous voulons progresser dans notre thème de la semaine. Je rappelle que nous sommes dans une semaine diaconale au cours de laquelle nous réfléchissons sur la diaconie active et l'entrepreneuriat au sein de l'Église. C'est le thème qui a été donné, mais la pensée globale de la semaine, c'est comment faire de Dieu mon partenaire fiable dans tous mes projets. Et effectivement, nous voulons aller dans cette direction parce que depuis le début de la semaine, nous parlons de la diaconie comme un ministère, comme un appel de Dieu, comme une recommandation divine. Et nous en avons suffisamment parlé, nous avons montré les fondements bibliques, nous avons parlé des raisons essentielles qui exigent qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions nous engager dans la diaconie. Nous avons parlé des bénéfices ou des avantages qui accompagnent d'abord des bénéfices et avantages dans la vie de l'Église, mais également en retour pour les hommes et les femmes, enfants de Dieu qui s'engagent dans la diaconie. Et nous avons parlé de plusieurs choses. Je crois que par la grâce de Dieu, l'essentiel est retenu. Je voudrais que demain, avec l'autorisation du révérend pasteur, et de tous ceux qui organisent le séminaire, que nous puissions prendre quelques minutes ou peut-être comme notre modérateur aujourd'hui commençait à faire le partage, que nous puissions avoir un espace où nous pouvons recevoir une ou deux questions, ou soit un commentaire ou un partage. Depuis le début de la semaine, je suis celui qui parle, mais je pense qu'il y a énormément de richesses au milieu du peuple de Dieu. Je vais souhaiter que demain, celui ou celle qui a une contribution, qui a une pensée, qui a une inspiration, qui a une question, puisse nous le partager. Ça peut être un très bon complément sur le sujet et l'enseignement. Et si peut-être il y a une question persistante qui aurait dû, qui a besoin d'être clarifiée selon à la lumière de la parole de Dieu ou de l'expérience que nous sommes en train de vivre, nous allons donner un espace de 15 ou 20 minutes où celui qui a une question, un commentaire, une contribution, un partage de bénédiction de la parole de Dieu ou en quoi l'enseignement lui a été bénéfique, ça serait une très bonne chose. Alors, ce soir, comme je l'ai promis, aujourd'hui et demain, avant de clôturer dimanche, je voudrais que nous puissions parler effectivement de l'entrepreneuriat selon la Bible. Et le thème de ce soir, je l'ai intitulé « Ce qu'il faut savoir sur l'entrepreneuriat selon la Bible ». Ce qu'il faut savoir sur l'entrepreneuriat selon la Bible. Nous tirons le fondement de ces sous-thèmes de notre semaine diaconale et connectés au premier aspect que nous avons développé. David, par exemple, est en train de dire, nous te donnons ce que nous recevons de toi. C'est dans Chroniques, chapitre 29, le 14e verset. Nous te donnons ce que nous avons reçu de toi. En d'autres termes, pour que je te donne, Seigneur, je dois avoir reçu. La question, comment est-ce que nous pouvons recevoir de Dieu? Nous te donnons ce que nous avons reçu de toi. Et nous voyons aussi dans l'expérience de Paul qui est en train de dire, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que vous puissiez posséder. En d'autres termes, afin que vous puissiez avoir et dit de quoi subvenir d'abord à vos besoins et que vous soyez aussi capable d'être riche en œuvre de libéralité. C'est important. Dieu, il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et la grâce de Dieu se transforme en situation matérielle. Il dit, afin que vous puissiez posséder. Ça veut dire, si nous parlons de la diaconie, nous parlons ici des œuvres qui ne sont pas imaginaires. Il faut poser des actes. Nous avons parlé des hommes et des femmes qui soutiennent l'œuvre de Dieu par leurs biens. La question, c'est que les biens, nous les avons obtenus comment? Est-ce que c'est par hasard que je me retrouve avec le bien? Ok, je peux voir un besoin dans la vie de mon frère ou de ma sœur. J'ai envie de poser un acte, mais je pose un acte dans le vide. La Bible est en train de dire, petits enfants, n'aimez pas en parole seulement, mais aimez en acte. En acte, ça veut dire, il faut que je pose des actes. La question, c'est que comment? Alors, la réflexion autour de l'entrepreneuriat dans l'Église ou dans la vie des enfants de Dieu est fondamentale parce que c'est une des voies que Dieu a prévu afin que nous accédions exactement aux moyens qui permettent à ce que nous puissions le servir. Par exemple, nous voyons dans la Bible, lorsque nous avons parlé de la diaconie dans sa dimension de libéralité, ça veut dire un homme, une femme, enfant de Dieu, qui prend la résolution, qui répond à l'appel de servir Dieu avec ses moyens. Et il y a même parfois des phrases du genre, Joseph, un homme riche d'Arimathée. Quelqu'un qui est riche. Quand on parle de Lydie dans Actes des Apôtres, on dit cette femme d'affaires, la femme vendeuse de pourpre. Le pourpre, c'était une matière de tissu qui était très chère à l'époque. Ça veut dire que quiconque, comme quelqu'un peut être aujourd'hui vendeuse ou femme d'affaires qui vend de l'or, par exemple, ou des tissus qui coûtent énormément cher. Donc, c'est quelqu'un qui travaillait et le résultat de son travail avait un impact dans l'œuvre du Seigneur. Et donc, la question ici, c'est autour de comment est-ce que nous accédons à la richesse. Encore que, dans les temps passés, il y avait parfois des soucis autour de la question de la richesse dans les églises. L'argent était comme un sujet tabou. Quand on parle de l'argent, on vous assimile à quelqu'un qui est devenu charnel. Quand vous voulez parler des affaires dans l'église, on estime que vous êtes en train de propager l'évangile de la prospérité. Alors, j'aimerais nous proposer un ou deux textes comme fondement de notre méditation ce soir. J'espère que le temps nous permettra. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Deutéronome, c'est juste à côté de l'Apocalypse, hein, pour les meilleurs lecteurs de la Bible. Donc, si vous allez juste à Apocalypse, vous avez Deutéronome. Je pense que c'est là que vous n'êtes pas. Deutéronome, nous sommes dans les 5 premiers livres de la Bible. Regardez si le voisin n'est pas allé déjà à Apocalypse, hein, dans sa Bible. Alléluia. Deutéronome chapitre 28, le verset 12e. Si vous commencez même au verset 11, il dit ceci, « L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. » Pour que Dieu multiplie, il faut que tu aies un début. Il dit « Le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol. » Et il continue, il dit « Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. » Le verset 12. « L'Éternel t'ouvrira ce beau trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Alléluia. Est-ce qu'on peut souligner dans notre Bible « Et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras pas. » Pour que tu sois capable de prêter, il y a une image ici, pour que tu sois capable de tendre la main, il faut que tu aies quelque chose dans ta main. Et nous voyons ici Dieu en train de dire « Il bénira tout le travail. » Et la question c'est de dire, c'est automatiquement pour dire « Enfin que je possède, pour avoir, il faut que je travaille. » La Bible parle réellement du travail. Dans Genèse chapitre 30, le verset 30, nous voyons la déclaration de Jacob. Si nous commençons même au verset 29, Jacob lui dit, il est en train de parler à son oncle Laban, « Tu sais comment je t'ai servi et ce que devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. » Donc quelqu'un travaillait pour que le bien ou le troupeau de l'autre puisse augmenter. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. J'aime la suite. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? À quel moment? Donc Jacob prend conscience que oui, j'ai travaillé déjà longtemps pour quelqu'un, mais je pense qu'il est temps que aussi je travaille pour moi-même, pour ma maison, afin de donner accès aux ressources à ma famille. Et enfin, nous pouvons prendre un autre texte. Nous pouvons prendre Proverbes chapitre 12, le verset 11e. Proverbes 12, le verset 11. Lisons-les ensemble. Proverbes 12, le verset 11. La Bible dit, « C'est lui qui cultive son champ et rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Celui qui cultive, celui qui travaille. Je reviendrai sur ce texte un peu plus tard. Celui qui entretient son champ. Il est rassasié de pain. Alors, je vais aborder ce sujet sous 3 ou 4 points. Le premier point que je voudrais aborder, c'est donner une signification rapide de ce qui peut être compris comme l'entrepreneuriat, peut-être de manière globale. Nous voyons déjà dans la Bible que la Bible parle du travail, du travail. L'entrepreneuriat, c'est un aspect du travail. Nous allons parler ensuite, au deuxième point, de pourquoi avons-nous besoin de travailler ou entreprendre. Si nous devons entreprendre, bibliquement parlant, pourquoi devons-nous le faire? Et au troisième point, je voudrais aborder quelques 6 ou 7 vérités bibliques sur l'entrepreneuriat. Ça dépendra du temps. Et demain, après le moment de partage avec nous tous, je voudrais donner quelques conseils pratiques pour réussir dans l'entrepreneuriat en tant que chrétien. Donc, de manière sommaire, pourquoi entreprendre? Quelques vérités bibliques sur l'entrepreneuriat et enfin des conseils pratiques. Parler de l'entrepreneuriat, il ne s'agit pas de théorie. Et j'ai l'avantage d'avoir en face de moi dans cette assemblée certainement des hommes et des femmes qui entreprennent, qui font du travail. Et si on avait l'occasion, on pouvait partager des expériences. Alors, le premier point, la signification, je ne prétends pas vous donner une définition scientifique. L'entrepreneuriat, de manière simple, vient d'un verbe qu'on appelle entreprendre. Alors, entreprendre, ça signifie quoi? Ou entrepreneuriat, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement mettre en place un projet, une initiative, une activité. Donc, au centre de l'entrepreneuriat, il y a un projet. Il y a quelque chose qui est réfléchi. Il y a une initiative, donc je commence quelque chose, une initiative, une activité qui vous permet de développer ou de créer un produit ou un service. Voilà, mettre en place un projet, une initiative, une activité qui vous permet de développer ou créer un produit ou un service à mettre à la disposition des consommateurs ou des utilisateurs. Alors, à contrepartie, l'entrepreneuriat ou l'entrepreneur reçoit un revenu sous forme de paiement. Je crois qu'on peut avoir beaucoup de définitions selon les psychologues, selon les scientifiques, selon les hommes d'affaires, mais de manière simple, quand nous parlons d'entrepreneuriat, c'est une initiative, c'est le fait que vous mettez en place un projet, une activité qui vous permet de développer un produit, un service. Et ce produit ou ce service a une valeur monétaire. Et quand vous le présentez à la consommation des bénéficiaires, ou soit des consommateurs ou des utilisateurs, à contrepartie, vous recevez un paiement. Et par conséquent, nous pouvons dire que l'entrepreneuriat, c'est un moyen de création de richesse. Lorsque je mets en place mon service, lorsque je offre mon produit, en retour, je reçois un paiement qui est un revenu qui me revient de droit. Alors, il y a tellement de choses qui peuvent être dites. Comment réussir dans l'entrepreneuriat? Peut-être ça, là, nous reviendrons dans les questions des conseils pratiques. Et souvent, on dit de manière pratique, le succès de l'entrepreneuriat dépend de la réponse que vous apportez dans la communauté. Parce qu'il y a toujours un besoin. Un entrepreneuriat qui réussit est généralement une réponse à un besoin. Beaucoup de gens, parfois, ils ne réussissent pas dans l'entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas répondu aux vrais besoins. Ça, c'est des questions pratiques sur lesquelles on reviendra peut-être demain en termes vraiment scientifiquement parlant, comment on peut le faire. Donc, de manière simple, c'est ça. Et nous sommes en train de voir, la Bible mentionnait, « Dieu, je bénirai le travail de tes mains. » Le travail de tes mains. En d'autres termes, même la bénédiction de Dieu, elle nous atteint en passant par le travail que nous faisons, en termes de richesse, en termes de biens matériels que nous devons avoir. Alors, rapidement, répondons à la question, pourquoi avons-nous besoin de travailler ou d'entreprendre? J'aimerais noter quelques raisons ici, 4 ou 5 raisons fondamentales qui, en réalité, sont une nécessité. C'est-à-dire pourquoi il faut que nous puissions travailler. Le premier ou la première raison, c'est que nous disons le travail professionnel sous forme de salarié ou entrepreneurial est le moyen par lequel Dieu nous bénit. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de comprendre cette vérité. C'est que le travail, parce que quand nous parlons de l'entrepreneuriat, c'est une facette du travail. Quand il dit « je bénirai votre travail, je bénirai l'œuvre de vos mains », c'est lui qui cultive son champ. Jacob dit « il est temps que je travaille pour moi-même ». Dans notre génération actuellement, il y a ce que nous appelons la profession, donc le travail de quelqu'un. Je peux travailler pour quelqu'un en tant qu'expert, en tant qu'employé, c'est mon travail, c'est un travail salarié. Je peux aussi travailler pour moi-même, j'entreprends quelque chose à mon propre compte, et là souvent on présente cela comme vraiment l'entrepreneur, c'est lui qui travaille pour lui-même. Maintenant nous disons pourquoi bibliquement nous devons travailler. D'abord, il faut aussi mentionner que certaines fausses doctrines étaient en train de mentionner comme si travailler, c'est une malédiction. Non, le travail a existé avant le péché. Donc, le travail professionnel, et je mentionne ici le travail professionnel, un travail bien fait, sous forme de salariat ou sous forme d'entrepreneuriat, est le moyen par lequel Dieu nous bénit. Ça veut dire, quiconque ne travaille pas, je peux beau prier, je peux beau crier, je peux avoir bien la foi, il est possible que ma foi, elle ne me donnera pas ce que j'attends, parce que peut-être cette foi-là, elle attend que je pose des actes d'entrepreneuriat. C'est vrai, il y a plusieurs formes que Dieu peut utiliser pour me donner le bien. Je peux être là, un frère, une sœur, il sent qu'il peut me bénir. Il vient faire un don. C'est vraiment, pasteur, ou soit mon frère, ma sœur, le Seigneur m'a mis à cœur, en tout cas, de te faire quelque chose de bien. Voici, tu prends le chèque, ou voici ce que je fais. On a vu même des personnes à qui on a offert des maisons. On a vu des serviteurs de Dieu à qui on a offert des voitures, des véhicules, des maisons, ainsi de suite. Ou soit on dit, nous allons prendre en charge les études de ton enfant. OK, tout cela, ce sont des formules que Dieu peut utiliser, les dons. Je peux recevoir les dons. Mais ici, nous sommes en train de parler d'une formule, je dirais, principale, où Dieu nous invite chacun à travailler. À travailler parce que c'est la voie par laquelle le Seigneur nous bénit. Le premier verset, pour étayer cela, c'est Deutéronome, chapitre 28, 12, que nous avons lu dans le départ, où Dieu est en train de dire, « Il bénira le travail de nos mains. » Je peux beau crier, « Ouvre le ciel !» Mais quand le ciel s'ouvre, en fait, c'est une expression figurative qui veut dire, « Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. » Mais cette faveur, elle descend sur quoi? Elle descend sur l'œuvre de ma main. Proverbe, chapitre 12, le verset 21, nous l'avons lu, « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. » À d'autres termes, pour que je puisse avoir le pain, il y a un travail préliminaire qui doit être fait. Celui qui cultive son champ, celui qui travaille. Alors ici, il y a même d'autres vérités qui peuvent être développées. Cultiver son champ. Le champ, c'est un domaine. C'est-à-dire, chacun d'entre nous doit découvrir quel est le domaine dans lequel Dieu m'a établi. La Bible déclare dans Genèse, Dieu forma un homme, il planta un jardin en Éden et il plaça l'homme dans ce jardin. En réalité, au plan entrepreneurial, ça signifie que tout enfant de Dieu, il y a un domaine dans lequel il y a un jardin d'Éden. Pourquoi Dieu n'a pas dit « Voici le monde entier pour toi, Abraham » Il a dit « Cultive le jardin ». À d'autres termes, la dimension entrepreneuriale demande que chacun découvre le domaine dans lequel Dieu veut qu'il puisse exceller. Proverbe chapitre 14, le verset 23. Je suis en train de dire « Pourquoi devons-nous travailler ?» Nous disons que, bibliquement parlant, le travail, c'est la source par laquelle la bénédiction matérielle. Dieu nous fait arriver les richesses. Écoutez le verset 23 de Proverbe 14. « Tout travail procure l'abondance. » Tout travail procure quoi? L'abondance. Ça veut dire tu as besoin de l'abondance, tu as besoin d'avoir des moyens, tu as besoin d'avoir de la richesse. Travaillons, travaillons. Et la question peut être, chacun d'entre nous, qu'est-ce que je fais? Donc, si tu ne fais rien, il est possible que tu n'auras aussi rien réellement. Tu n'auras rien. Tout travail procure de l'abondance. Au début de cette semaine, je suis allé rencontrer un ami. J'ai payé une facture chez lui. Et c'est un ancien ami d'enfance. Un ami d'enfance. On a grandi dans la ville ici. Et on s'est rappelé, en effet, notre petite enfance, quand on grandissait à l'âge de 15, 16, 17, 18, c'est un bien-aimé qui avait un petit appareil de photographie. En effet, aujourd'hui, quand je le vois, il a deux grands magasins dans la ville, il a des parcelles dans la ville, il a sa voiture, il a ses enfants. Alors, je lui disais, mais franchement, Dieu t'a béni. Il dit, mais papa, est-ce que tu sais, tout est parti du petit appareil de photographie. Il dit, mon père ne m'a pas laissé un héritage. Je n'ai jamais reçu, je ne sais pas, une subvention, un don quelconque. Mais en tout cas, ce que je sais est que Dieu a utilisé mon petit appareil ici de photographie. Et c'était comme, on peut dire qu'il est en train de dire faux. Il dit, en réalité, tout ce que tu vois aujourd'hui, les maisons, les véhicules, les boutiques, les magasins, c'est parti de cet appareil de photographie. Chaque fois que je gagnais quelque chose, je mettais de côté. J'ai commencé et finalement, quand tu le vois aujourd'hui, c'est quelqu'un à envier. En effet, nous sommes en train de dire le travail bien fait, avec la grâce de Dieu, il vous amène jusque à avoir le résultat que vous devez avoir. Proverbe 22, le verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de roi. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi devons-nous travailler? Le travail, c'est la voie par laquelle Dieu nous donne accès à des ressources. Mais ici, je voudrais mentionner quelque chose. Je suis en train de dire le travail professionnel. Ça veut dire le travail bien fait. Dans la plupart des cas, il y a des enfants de Dieu qui, parfois, nous n'arrivons pas à faire bien notre travail. Je reviendrai cela demain sur les questions pratiques. Avec tellement de spiritualisation des choses, au lieu de faire des choses correctement, nous voulons, bon, Mungu atasaidia, le Saint-Esprit va prendre en charge. Bien aimé, il y a des domaines dans lesquels il faut faire bien votre travail. Et le travail bien fait, il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès du roi. En d'autres termes, le travail bien fait vous donne aussi accès à des domaines ou à des personnes ou à des situations où vous ne pouviez pas arriver tout seul. Pour conclure ce premier point, nous disons, le travail bien fait donne de la valeur. Le travail bien fait vous donne accès à des ressources. Et le travail que nous faisons devrait être tout ce que le Seigneur vous permet vraiment de faire. Tout ce que le Seigneur vous permet de faire. Il y a des personnes qui s'emprisonnent pour dire que non, moi je ne peux pas faire tel type de travail. Surtout quand vous avez déjà un diplôme, parfois nous sommes prisonniers de nos diplômes. Alléluia. J'aimerais parler à ceux qui ont eu des diplômes d'université. Parfois, nous sommes prisonniers de nos diplômes. C'est lui qui cultive son champ. Vous savez que parfois, un diplôme peut te détourner de ce que Dieu a prévu que tu fasses. Il y a même des gens qui disent, dans l'être humain, il y a plusieurs possibilités de professionnels. Ça veut dire que vous prenez le jeune homme qui est sorti en médecine comme médecin. Si en réalité les circonstances avaient permis que la même personne entre en faculté de l'économie, il sortirait économiste. Et il va bien le faire. Tout ce que Dieu permet que vous puissiez faire, faites-le. J'ai toujours ce souvenir dans ma vie. Au départ, lorsque je grandissais encore et que j'étudiais, et même j'avais fini, quand j'étais en train de vouloir finir les études, vous savez que le travail qui m'a permis même de payer la dot pour avoir mon épouse, c'est un travail qu'il n'y a osé imaginer à temps. À l'époque, j'étais en train de finir mes études et puis un frère, dans la foi, il a été contacté par une maman qui l'aimait beaucoup et pour qui il faisait un travail de traduction des textes d'anglais à français. Et à l'époque, j'avais déjà quelques petites capacités dans ce domaine-là. Et finalement, lorsqu'on vient demander au frère « Est-ce que tu peux faire la traduction ?» Il dit « Non, en réalité, je suis très occupé. » Il était en médecine, il était en train de terminer. Mais il dit « J'ai un jeune frère qui peut mieux faire pour toi. » C'est là qu'il passe mon nom à la personne. Et un jour, on me teste pour dire « Est-ce que je peux réussir à traduire ça ?» Je fais et c'était très bien fait. Ensuite, on m'a confié des CD, c'était environ 20. Vous savez, à l'époque, quand il y avait la guerre ici et puis il y avait des femmes qui étaient abusées, les gens venaient prendre des films, des histoires. Et on avait besoin que quelqu'un traduise des Swahili en français et puis en anglais. Un travail très compliqué. Donc, vous devez prendre mot à mot, minute par minute. Tu écoutes « Maskio Nakulu Makabisa » et tu dois traduire ça. On a écouté là où tu n'écoutes pas bien. Et c'est ce travail-là. On me payait combien? Je crois 20 dollars par CD. C'était une grosse fortune. Mais pour que vous partez les 20 dollars, « Maskio Shawashasam » Et je passais des nuits entières. En fait, l'histoire n'est pas ancienne. Elle n'est pas très loin de nous. C'est ici à Hill Africa. Et l'homme dont je vous parle, c'est le docteur Simplice. Pour ceux qui connaissent le docteur Simplice. Il m'a connecté à celle qu'on appelait Maman Lynn, paix à son âme. Et je travaillais des nuits et des nuits. Mais vous savez, tant que je savais que je vais avoir un peu de revenus, et ce revenu va me permettre d'avoir ma femme, j'ai travaillé suffisamment. Alléluia. Alors, ne me posez pas, j'ai payé une œuvre à combien, ça c'est notre secret. Mais j'ai béni Dieu pour ma femme qui avait négocié. À ce temps-là, c'était compliqué. Donc, les parents d'aujourd'hui, ne compliquez pas les frères. Ma frère, si maintenant, c'est mieux à Léo. Est-ce que vous pouvez m'apprécier parce que je parle pour vous? Tout travail procure de l'abondance.
Un travail qui peut sembler être méprisable, mais bien fait, peut vous ouvrir des portes. Alléluia. Le premier travail où je sentais que j'étais vraiment bien payé, et que même quand on m'avait dit que je vais avoir le salaire, on a prononcé le chiffre 3000, pas 3000 francs congolais. J'avais l'impression qu'on m'ait trompé. Tellement qu'on était habitué à des paiements à Chinisan et qu'on était convaincu qu'on était déjà arrivé. Et quelqu'un vient te dire, mais petit, je vois que tu es intelligent, est-ce que tu ne peux pas nous rejoindre? Et moi, je dis, mais est-ce qu'il s'est trompé d'adresse ou quoi? En effet, un jour, j'étais à Kindu. Je faisais un exposé. Et dans cet exposé, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à faire bien ce que je devrais faire. Et le monsieur, il dit, mais nous étions dans une conférence. Il y a un jeune homme qui a bien fait le travail. Est-ce qu'on peut me le chercher? Et on est venu me chercher, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est ça que je suis en train de dire. Bien-aimé, peu importe le travail que tu fais, fais-le bien. À l'époque, il m'appelait petit. Je vous rappelle que c'est un bien-aimé qui n'est ni congolais, ni gomatracien. C'est quelqu'un de l'étranger. Je prie que Dieu fasse en sorte que ta grâce soit vraiment remarquée et que tu obtiennes ce qui est vraiment en toi. Je suis allé parler à mon épouse, j'ai dit, on a dû à ça, ça. Et voilà, on a tani parti à Kazi. Mais on a dit, ma bita quoi, il va se hâta. Il m'a Kazi, il va y en zaka, qui sont à potes à biote. Est-ce que tu es ici, qui a tout que le kido, qui est tout qu'on aille? Non, 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 nous allons migrer. On a réfléchi encore ensemble, on a dit, non, non. Tu sais, tu peux travailler à 6 mois pour gagner ce que tu pouvais gagner à 2 années quelque part. Et on s'est dit, ok, tu n'as qu'à m'attaïle. Même si bina kata katika, tu en auras déjà gagné quelque chose qui pouvait. Et Dieu a fait grâce. Je dis ici, avec Proverbe 22, 29, si tu vois un homme habile dans son travail, il se tient auprès du roi. Mon propos ici, ça veut dire quoi? Le travail est le moyen par lequel Dieu permet que nous puissions accéder à des revenus. Mais c'est un travail que nous devons bien faire. Parce que et nous ne devons pas mépriser n'importe quel travail. Si c'est un faible revenu, commence par là. Commence par là. Il y a tellement de l'orgueil actuellement qui est dans notre génération où tout le monde veut commencer au sommet. Et c'est ce qui fait qu'il y a des blocages pour des gens. J'ai toujours dit à mes amis, surtout quand je conseille aux jeunes, j'ai dit si aujourd'hui les circonstances de la vie permettraient que je sois un aide-maçon pour nourrir ma famille, moi je le ferais. Non pas parce que je n'ai pas de complexe. Je le fais et je peux encore le faire. Alléluia. Il veste à ton éval en approche COVID à Inamana. Attends, on a gonflé au même minico licencié, juriste, en approche COVID. Il n'y a pas à une valeur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide à aller là où il y a tellement de ressources. Il dit celui qui cultive son sang. Le diplôme, c'est un papier, mais que Dieu ouvre tes yeux sur ce que tu peux faire. Alors, la deuxième, pourquoi nous devons travailler? La première raison, je dis, le travail professionnel est le moyen par lequel Dieu nous bénit. Tu veux avoir accès aux moyens? Tu veux être une bénédiction pour l'Église? Tu veux être une bénédiction pour un frère, une sœur? Il faut que nous puissions travailler. Deuxième bonne raison, nous avons des besoins liés à notre existence qui exigent la contrepartie des ressources financières pour assurer notre bien-être. Nous avons des besoins liés à notre existence qui exigent d'avoir les moyens, les biens matériels. À d'autres termes, nous sommes en train de dire ici, il y a des choses que la prière ne va pas résoudre. Il faut que quelqu'un décide. C'est là que Jacob est en train de dire, il faut que je travaille, il faut, je dois travailler. Parce que la réponse à mes besoins trouve sa solution dans le travail. Et que nous le voulions ou pas, en tout cas, certains besoins sont têtus. On a un zaom batou, pour manger, il faut que tu trouves la nourriture. Pour que tu puisses avoir telle ou telle satisfaction dans la vie, tu as besoin de moyens. Vous savez, à un moment donné, c'est vrai, parfois on essaie d'être un peu humble ou soit de tout spiritualisé. Il y a un cantique là qui avait été chanté quand on grandissait. Avec l'argent, on peut avoir le lit, mais pas le sommeil. Avec l'argent, on peut avoir, je ne sais pas, la nourriture et non pas la santé. Mais bien aimé dans le Seigneur, la vérité c'est que pour bien sommeiller, il faut aussi avoir un bon lit. Il y a des lits compliqués où on a des cauchemars, on a la mukosha vunjika vunjika mukifu. Donc, c'est bien, oui, avec l'argent, perdre le lit et pas forcément le sommeil, mais pour un bon sommeil qui repose, vous avez aussi besoin d'un bon lit. Imaginez-vous que vous avez un matelas, il y a un kwanza huku, il y a na huku, parce que vous katikati pale. Frère, attaque à faire des dieux, maquille à tout n'a droit à la mesure. Mais pour que tu aies ces conditions-là, tu as besoin de moyens, frère. Matelas est à chouka kutoka mbinguni. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. C'est là que parfois les gens qui étaient humbles, bon, si tu connais la tumbinguni, tout ça, on commence à développer la jalousie et la haine envers ceux qui ont compris et qui ont travaillé. Vous savez que c'est vrai, on peut dire qu'avec l'argent, tu peux avoir les habits, mais pas la... Bien-aimé, il y a certains endroits où la bonne apparence te donne accès. Ne soyez pas suffisamment un peu humble, bon, mais si on a une apparence, ça ne. J'aime quand j'arrive dans cette église, je vois des hommes et des femmes bien habillés. Frères et sœurs, habillez-vous bien. Tirez à quatre épingles. Et même l'Esprit et Dieu n'est pas contre ça. Vous savez, il y a un temps où quand on grandissait, on a l'impression que Mounyana va l'ambaye en Djeko Kiro. Kiro et Abitugan. Et on a même, vous savez, je vais vous dire sincèrement, vous savez que dans certaines églises, nous avons chassé une catégorie de personnes. Ou qui on a mama Mounyana Nyoro Kamuzuri à seulement Haiko Kiro. Ou soit une sœur qui est très bien taillée à Soledad à Kwaki Kiro. Les gens sont à la recherche, et bien tu ça, comme on a Mouna Ganiv. Que Dieu nous fasse grâce. Gloire au Seigneur. Mais bon, peut-être que ça n'existe pas ici, mais nous, on a vécu ces choses. Si quelqu'un dans l'église commence à émerger, on a tiré qu'à parfum, Mouzuri, Kalikuta, on veut chercher, il est Makute Litoke Awapi. Qui vous dit que Dieu ne peut pas bénir un frère? Voilà, une soeur, une famille est bénie, stable. Et la Bible dit clairement que Joseph d'Arimathée était riche et disciple de Christ. Il est possible d'être riche et être assis au pied du Seigneur. David, il est riche, il est élevé, mais il dit, l'Éternel est mon berger. Pourquoi nous avons toujours le sentiment que Monyeko est suffisamment élevé, il a l'argent, ou le Heko Kiro? Qui vous dit que Heko Kiro? D'ailleurs, ce sont les gens qui sont censés être très spirituels. Hananjala, Hana problème, yaikinaik. Il est là calme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Bien-aimé, tutumike na tutafute pesa. Très important. Sinon, nous allons être des malheureux, des frustrés dans l'église. Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de la prospérité qui met l'argent comme Dieu central et à Maïs. Nous avons besoin de l'argent pour nos besoins et pour servir Dieu. Il faut être humilié un jour quand vous êtes en train d'aller à l'extérieur vers un païen qui ne connaît pas Dieu. Mon ata djenga kanisa njo mkonda mbembeleza. En fait, il est en train de rambia mukere. Na ole mungu memu na umbaka, hezi wapatia. Si vous avez cette réponse-là, ça va vous révolutionner. Seigneur, fais-nous grâce. Il y a des besoins qui ont besoin que nous soyons réellement, réellement, réellement stables, même financièrement. Ce n'est pas un péché. Dieu n'est pas contre ça. Et voilà, Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8e, il dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à quoi ?» À vos besoins. Ça. On va satisfaire les besoins avec Maombi, à Pana. On va satisfaire les besoins avec vraiment, si Dieu, à un moment, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour aller travailler et avoir accès à des revenus. Gloire au Seigneur. Et il dit, afin de satisfaire à vos besoins, vous et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8e. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de quoi? De sa famille. Il a fait quoi? Il a renié la foi, et il est pire. Donc, tout ce qu'on a dit, c'est bon, vraiment, nilienda shinda ukanisa toute la journée, que ça, maman, c'est ma sacha, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est à part? Non. Il dit, si quelqu'un n'arrive pas à prendre soin des siens, on ne va pas prendre soin des siens, de sa famille, quand on est main vide. Donc c'est une nécessité, c'est une obligation. Le jour où j'ai pris la résolution vraiment de quitter tout ce qui est travail professionnel, humanitaire, pour me focaliser au ministère, nous avons été ensemble avec mon épouse, nous avons dit oui, nous allons dans le ministère et ce que Dieu nous donnera, il nous donnera. Mais avec quand même quelque chose que Dieu nous a donné jusqu'ici, est-ce qu'on ne peut pas aussi entreprendre pour créer une source de revenus qui soutient la famille, afin que servant Dieu, nous puissions servir Dieu avec joie. Il a dit qu'il bénira l'œuvre de nos mains. Est-ce qu'on n'a pas un capital qu'on peut initier? Parce qu'en même temps, il faut que les enfants étudient bien, il faut que nous puissions continuer à vivre sérieusement par la grâce de Dieu, il faut que nous continuions à être un modèle, il ne faut pas que servir Dieu soit un sujet de murmure, ainsi de suite. Et surtout, la Bible dit, il faut que nous puissions prendre soin de notre famille. Troisième chose, troisième bonne raison. La première, je dis, le travail, c'est la voie par laquelle Dieu nous donne accès à des ressources. Deuxième raison, nous avons des besoins qui doivent être comblés par des moyens financiers ou des ressources. Troisième raison, parce que le travail nous facilite d'avoir accès à des moyens qui facilitent l'accomplissement des objectifs du royaume de Dieu. Et ici, nous en avons parlé suffisamment depuis hier et avant-hier. Nous avons parlé de la libéralité. Pour que nous soyons des hommes qui agissent par libéralité, pour que nous soyons des hommes et des femmes qui soutiennent le ministère, nous devons avoir le moyen. Nous devons avoir le moyen. Nous devons avoir le moyen. La fierté d'un pasteur, par exemple, dans cette église, c'est lorsqu'il vient présenter un besoin devant ses fidèles et les enfants de Dieu, ils disent, « Pasteur, il n'y a pas de souci. Ça va être comblé. » Je prie que Dieu nous amène à cette dimension. Je crois que j'ai donné cet exemple. C'est notre papa qui donnait ça. Il était au Nigeria, dans une visite. Il y a des pays ou des capitales où vraiment l'argent circule à flot. Ce sont certains hommes d'affaires dans l'église qui viennent. « Banaitaka pasteur wabo. Asimusa sababa. Ita jingine ni anamuna gani jutui tuitumiki yako. » Donc, il dit, « Papa, c'est quoi encore? Dieu t'a dit encore quoi? Nous, l'argent est là. » Quand on commence à présenter les besoins, c'est vraiment Mchungazi. On a exagéré, Masikusas. Alléluia. Je prie que Dieu nous amène à cette dimension où nous pouvons dire au pasteur, qu'est-ce que Dieu demande que tu fasses encore? Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ça existe. Qu'est-ce que tu veux que Dieu demande que nous puissions faire? Nous avons besoin. Nous avons parlé du centenier qui a construit le temple. Nous avons parlé de Joseph d'Arimathée qui a pris soin du corps de Jésus. Nous avons parlé des femmes qui soutenaient Jésus avec leurs biens. Nous avons parlé de Lydie qui a vu Paul qui prêchait l'évangile après avoir été baptisé et dit « Venez, l'évangélisation a besoin d'hommes et de femmes qui ont le moyen. » L'évangélisation, la construction du temple, l'entretien, l'implantation des églises. Bref, nous avons suffisamment parlé de cela et nous avons besoin que Dieu nous donne accès réellement à des ressources. À un moment donné, nous étions en train de parler aussi en famille. On s'est dit qu'il y a un fardeau que Dieu nous donne toujours par rapport surtout aux étudiants, aux jeunes qui sont dans les universités. Nous sommes compassionnés par rapport à l'évangélisation dans les universités et nous nous disons, Seigneur, voilà, tout cela, ça peut demander le moyen, réunir les étudiants, avoir des équipes de soutien, ceci ou cela. Qu'est-ce qu'il faut? Nous avons dit, bon, peut-être on peut parler aux gens qui n'ont pas le fardeau. Et nous avons dit au Seigneur, bénis notre travail, afin que nous-mêmes, nous ayons de moyens pour soutenir ton œuvre. Quelqu'un peut voir un fardeau et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me bénisses et que je sois le canal par lequel tu passes. Quatrième raison, pourquoi avons-nous besoin d'avoir accès aux ressources? Assister les nécessités. Nous en avons parlé, c'est une recommandation biblique, aider le prochain qui est dans le besoin. Dans Ésaïe chapitre 1, le verset 17, nous l'avons lu, prenez soin de la veuve, soutenez l'orphelin, et voilà la recommandation de la Bible. Enfin, cinquième raison, pourquoi avons-nous besoin d'entreprendre et de travailler pour avoir des ressources? C'est parce que nous devons aider et soutenir les serviteurs et les servants de Dieu. C'est un peu en rapport avec ce que j'ai dit, accomplir les objectifs de Dieu, mais je voudrais mettre cela vraiment en exergue pour dire, dans une église locale, le peuple de Dieu doit avoir vraiment le regard sur le bien-être des hommes et des femmes que Dieu a établis pour conduire le peuple. Je vous ai proposé Matthieu, chapitre 10, le passage, j'en ai fait référence la fois passée, mais je voudrais le lire dans ce culte. Matthieu 10, le verset 41, lisons ensemble. « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Vous savez, Jésus, quand il parlait, parfois il utilisait des expressions. Et quand nous lisons, pourquoi Jésus dit par exemple, « Celui qui donne un verre d'eau froide ou fraîche. » Mwenye anatuliza roho ya mtumishi wa Mungu. Alléluia. Mwenye anakuya leta kutulia katika maisha ya mtumishi ya Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je voudrais contribuer, je voudrais être un homme, une femme dans mon église qui contribue au bien-être, à la stabilité, à la paix, à la quiétude de l'homme de Dieu, de la servante de Dieu. Et Jésus en dit, c'est lui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète. À d'autres termes, c'est lui qui agit envers un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, en sa qualité de serviteur. C'est autrement, tout est connecté à la grâce qui est en train de fonctionner dans la vie de cet homme ou de cette femme de Dieu. C'est très important. Et pour que nous puissions le faire, nous avons besoin d'avoir des moyens. Il est bon de prier pour un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, mais il est aussi bon, par la grâce de Dieu, de venir avec une réponse, une solution par rapport à ce qui se passe dans la vie du serviteur de Dieu. Rapidement, parlons de quelques vérités bibliques sur l'entrepreneuriat. La première vérité, le point que j'ai développé, c'était sur pourquoi les raisons essentielles pour lesquelles il faut travailler. C'est une nécessité. Si vous ne travaillez pas, vous êtes en train d'arrêter quelque chose dans votre marche avec Dieu. Alors, une des vérités, c'est que je voudrais mentionner ici, c'est que la Bible n'est pas contre la richesse. Du début à la fin, la Bible n'est pas contre la richesse, mais tous les moyens ne sont pas approuvés pour accéder à la richesse. C'est ça ce qui est fondamental. Et c'est pourquoi demain, nous allons parler des conseils pratiques pour réussir dans l'entrepreneuriat en tant qu'enfant de Dieu. Tout le monde peut avoir accès à la richesse, mais la question fondamentale, comment est-ce que tu as acquis cette richesse-là? Et d'une manière même, entre parenthèses, lorsque nous avons obtenu nos richesses par des voies non approuvées par Dieu, parfois nous avons des difficultés pour servir Dieu avec cette richesse-là. Mais quand David dit, nous te donnons ce que nous avons reçu de toi, ça devient comme un cycle. Dieu donne, je lui donne, ainsi de suite. Mais quand ce que nous recevons, ce que nous avons, n'est pas venu par la voix de Dieu, ça pose problème. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 9e, nous voyons cette histoire, encore une fois de plus, métaphorique, qui est exprimée dans la Bible au sujet de Jésus et du diable. Quand vous commencez au verset 8e, Matthieu 4, « Le diable transporta encore Jésus sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. » Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et faire quoi ? Et tu m'adores. » Si tu te prosternes et tu m'adores. Je prie que Dieu nous épargne des richesses que nous obtenons parce que nous nous sommes prosternés devant le diable. Je prie que Dieu nous épargne de ces richesses, de ces biens que nous obtenons parce que nous nous sommes compromis. Et Christ a dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Et nous voyons dans Deutéronome, si tu obéis à la voix de l'Éternel, Dieu t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Nous n'avons pas forcément besoin, et ça a toujours été ma prière, beaucoup plus quand j'étais encore dans le monde séculier, je disais, Seigneur, épargne-moi. de cette acquisition de richesses, où ce soit la tricherie, soit tu as trompé, soit tu as falsifié. Je disais, Seigneur, je suis enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Il est possible de s'enrichir dans des voies normales approuvées par Dieu. Et je prie que Dieu nous fasse grâce. Ésaïe 55, le verset 8, il dit, « Mes voies ne sont pas vos voies. » Nous avons besoin que Dieu nous montre ses voies. Ça, c'est la première vérité biblique. Dieu n'est pas contre la richesse. Et nous devons éviter ce genre d'enseignement ou d'attitude du genre, vraiment, les riches n'entreront pas au ciel. Qui vous dit que les pauvres entreront aussi? Du reste, les pauvres, on a tellement de problèmes, tellement de soucis. On se console là, tout ça, bon, bah, si, il y a certaines pauvretés qu'il nous faut commettre des péchés. Franchement. On a mis un peu de temps à tirer avec ça, à la joie. Si on voit tirer avec ça, il y a un problème. Demande à Dieu de te donner aussi. Elle est bien habillée, ça, c'est un problème. Est-ce que c'est un problème? Si moi, je n'ai pas maintenant, je dis, Seigneur, fais-moi grâce d'avoir aussi à mon temps. Est-ce que les gens qui ont doivent aussi commencer maintenant à se comporter comme s'ils n'ont pas? Non, ils doivent rester là où ils sont. Gloire au Seigneur. Deuxième vérité biblique, la grâce de Dieu est essentielle pour réussir dans l'entrepreneuriat. La grâce de Dieu, bibliquement parlant, la grâce de Dieu est essentielle pour réussir dans l'entrepreneuriat. Dans le travail que nous faisons, pour réussir dans le travail que nous faisons, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin d'avoir cette vérité. Chaque matin, quand je me réveille avec mon épouse, Seigneur bénis notre famille, les enfants, nous les parents, et nous étendons toujours cette prière et même ceux qui travaillent pour nous. Alléluia. Si tu as un employeur, vous savez, avoir même quelqu'un qui travaille pour toi, il y a cette petite expérience qu'on connaît d'une maman qui faisait tellement confiance à son travailleur. Et chaque jour, elle vient, Mambo Kosao. Le jour, il est venu faire le contrôle. Tous les cartons étaient vides dans la boutique. Alors qu'il pensait que Biotebi Kosao cool. Prenez le temps de faire le contrôle de votre travail. Avoir un travailleur qui fait bien ton travail, c'est une grâce de la part de Dieu. Il y a des gens qui ont fermé leurs entreprises. Dieu abat, bafanyakazi, babaya. Réussir dans l'entrepreneuriat demande la grâce de Dieu à plusieurs niveaux. Nous voyons dans Genèse chapitre 39, si vous prenez le deuxième et le 21e verset. Le deuxième verset, il dit ceci, l'Éternel fut avec lui, c'est Joseph. L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Mais au centre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réalité spirituelle qui est comme une couverture, qui est comme un bouclier qui soutient le travail de ce jeune homme. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. L'Éternel faisait quoi? Prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Ce passage montre qu'en réalité, nous qui sommes bien-nés. Alléluia. Et pendant que nous sommes dans cette semaine de diaconie, je prie que Dieu libère vraiment cette grâce-là qui fait marcher les choses dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a besoin de la grâce de Dieu. Dans Ecclésiastes chapitre 9, le verset 11e, c'est un passage que j'aime beaucoup, qui m'aide toujours à dépendre totalement de Dieu dans ce que nous entreprenons. Tout ce que ta main trouve à faire, c'est Ecclésiastes 9, le verset 10e. On peut monter un peu au verset 10? On peut lire ensemble. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Juste une parenthèse ici. Vous savez, Mungwa Kikubariki, comme on appelle la couleur à rouge, voilà à bleu, il va aller à Kudunia. Kule mbinguni asani ma couleur à maupe. Si que tu t'as fika ka kule, njo naanja kumbuka que non moi j'ai besoin d'une veste bleue. Asema apana huko ni za maupe huko. Donc, quand Dieu vous bénit, satisfaisez votre cœur aussi pendant que nous sommes sur la terre. Usijime raha. Basile na kwa tara kimwili. C'est Dieu qui dit, afin de satisfaire à vos besoins. L'Ecclésiaste dit, kule kwenye kuna enda, hakuna matunda akazi, donc s'il y a des choses que tu dois, si tu faut bien manger le poulet, haute kulaka kule. Kule wasema tutakulaka nini? Sini maabudu kule. Continuons. Le verset 11e. Donc, si tu as manqué le bon repas ici, kule atuta kulaka kule. Donc, c'est ici qu'il faut bien manger. Que Dieu vous bénisse. Alors, la suite, c'est ici. J'ai encore vu, lisons ensemble, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Aux agiles, ça signifie à ceux qui sont rapides. Il dit ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages. Il dit ceci, ni la richesse, pas forcément aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Ça veut simplement signifier et il est très important, lorsque nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat ici, que nous puissions nous connecter à cette réalité spirituelle. Très important, très important. Quand Dieu est associé, quand Dieu est présent, c'est là que je reviens à la pensée de la semaine. Faire de Dieu mon partenaire fiable dans mes projets. Une des vérités bibliques, c'est que la réussite dans l'entrepreneuriat, elle est connectée à la faveur de Dieu. Nous allons ajouter demain d'autres éléments et nous allons prier le Seigneur. Lèvons-nous et faisons cette prière. Aliahidi atatenda tumainie ba Aliahidi Aliahidi atatenda tumainie ba kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi na neno lake kwa kinywa chake halitarudi bu litatimiza mapenzi yake litatenda alivyosema oh aliahidi atatenda tumainie. Est-ce qu'on peut ensemble lever nos mains? Je vais prier Dieu. Seigneur, nous parlons de ces sujets importants avec beaucoup de confusion et de frustration. Dans ces temps difficiles, les enfants de Dieu se posent la question, où commencer? Est-ce que ça vaut la peine? Seigneur, Isaac, il a rencontré l'adversité à Guérar. Tu lui as dit, il y a une famine, ne descends pas en Égypte, reste là. C'est là que tu l'as béni, à plein désert. Et devant l'adversité, tu l'as fait prospérer. Je prie ce soir, alors que nous parlons de ce sujet, l'entrepreneuriat selon la pensée de Dieu, comme moyen par lequel tu nous enrichis, ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Ce que nous entreprenons, Père, reçoive la bénédiction qui vient de toi. Parle à chacun d'entre nous. Aide-nous à sortir de la pauvreté. Aide-nous à sortir du manque, Seigneur. Aide que mon Dieu, nos mains possèdent, saisissent la richesse, la provision qui est attachée à notre vie. Seigneur, fais-nous grâce. Combien d'hommes et de femmes, enfants de Dieu, même à l'église, ont des cœurs qui pleurent, Seigneur, ont des cœurs frustrés. Mais je prie, mon Dieu, que ta grâce nous soit favorable. Il est écrit que tu étais avec Joseph et il a réussi. Et le sage dit, ce n'est pas forcément par intelligence. Oui, nous allons faire des projets. Oui, nous avons des stratégies. Oui, nous avons des diplômes. Peut-être que nous avons même le capital. Combien ont investi et ils ont tout perdu. Seigneur, quand la grâce de Dieu est là, elle sécurise même notre capital, oh Dieu. Quand la grâce de Dieu est là, elle touche le cœur de ceux qui travaillent pour nous. Quand la grâce de Dieu est là, même les circonstances et les temps qui qui peuvent être délicats pour les uns deviennent favorables pour nous. Même en pleine crise, oh Dieu, tu es capable de faire en sorte que nous puissions prospérer. C'est de cela dont nous avons besoin. Quand, Seigneur, nos yeux ne voient pas la voie de sortie, la Bible déclare, tu es celui qui fraye un chemin dans le désert. Oui, Seigneur, fraye un chemin pour quelqu'un. Et que toi seul, tu sois glorifié. Dans le nom de Dieu, nous te prions. Amen.